Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote!
Voilà.
Bienvenue au
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue, c'est Côté Club, votre magazine de toute la scène française. Tenue de soirée ce soir en direct du studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique. Nous sommes le 2 mars 2021, il y a 30 ans, disparition de Serge Gainsbourg. Toute la journée, France Inter a poinçonné les lilas. Alex Baupin vient de finir son concert Love on the Beat. Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore? Ce soir, Gainsbourg, etc. Avec au générique Arthur Teboul de Feu Chatterton. Bonsoir.
Bonsoir.
Sébastien Merlet, auteur de la somme Le Gainsbourg en studio avec Serge Gainsbourg et qui travaille aujourd'hui sur le triple live, le Zénith de Gainsbourg qui sortira en juin. Bonsoir. Et enfin, on ira du côté, je crois qu'il est à Belle-Île-en-Mer, retrouver le percussionniste Marc Chantreau. Marion?
On sera au téléphone avec Yael pour évoquer Gainsbourg, l'héritage électronique, un podcast qui fait le point entre les relations entre l'homme à la tête de chou et la French Touch.
Côté club, la nostalgie camarade.
Côté club,
tu t'appelles comment?
Laurent Goumard.
Et je vais essayer d'articuler, d'accord?
Sur France Inter.
Et on ouvre tout de suite sur une fin, un morceau culte que vous avez choisi, Arthur Teboul, Cargo Culte, le titre clôt l'album concept Melody Nelson de 1971. Cargo Culte, une référence au culte que les papous de Nouvelle-Guinée vouaient aux avions cargo qu'ils regardaient passer dans le ciel. Et dernier détail, un texte inspiré du poème Les Conquérants de José María de Heredia.
Aéroplane.
quand la sirène d'alarme s'est tue, es-tu resté? Au hasard des courants, as-tu déjà touché ces lumineux coraux des côtes guinéennes? Où s'agitent en vain ces sorciers indigènes qui espèrent encore en des avions brisés? N'ayant plus rien à perdre, ni Dieu en qui croire, afin qu'il me rende mes amours dérisoires, moi, comme eux, j'ai prié les cargos de la nuit.
Culte, Serge Gainsbourg, un titre de 1971, un titre avec les Jeunesses de France, c'est ça, hein, les Jeunesses de France dans le cœur, hein, Sébastien Merlet.
C'est le cœur mixte des Jeunesses musicales de France,
ouais, c'est ça,
dirigé par Louis Martini.
Exactement.
Et moi j'étais en train de dire à Arthur, mais quand est-ce que vous le reprenez avec Feu Chatterton ce titre? C'est pas possible, il est fait pour eux.
J'étais en train de répondre en rougissant que il y a des choses qu'on révère trop pour pouvoir y toucher, quoi. Il faut être un peu irrespectueux pour faire les choses bien. Je crois que c'est Gainsbourg qui nous l'a enseigné aussi.
C'est par Mélodie Nelson que vous êtes rentré chez Gainsbourg, Arthur Teboul?
Non, c'est un peu par hasard, plutôt en fouillant la discothèque de mon père, mais à l'adolescence. Mais quand j'ai découvert Mélodie Nelson, j'ai eu la chance de le découvrir seul. C'est toujours beau quand on arrive à quelque chose un peu par soi-même, surtout à l'âge de l'adolescence. On a l'impression d'entrer dans une pièce particulière, de découvrir un feu, un secret bien gardé. Je sais pas, on accède à un monde, quoi. Il y a la vie devient plus intense d'un coup. Enfin, je sais pas, là, on l'a écouté pendant 5 minutes, c'est 15 ans après la première fois que je l'ai entendu et j'avais envie de pleurer quand même, quoi. Je veux dire, il y a un monde qui naît devant soi et qui ouvre une porte sur une infinité de possibilités. Je sais pas, une chose que j'envisageais pas à l'époque, par exemple, dans ce morceau, c'était à quel point le silence de la voix était présent, à quel point ça respirait. Il y a une tension immense, mais beaucoup de retenue. Gainsbourg, en fait, il parle assez peu, mais chaque fois qu'il dit quelque chose, et toute cette retenue, tout ce silence, ce jeu-là, avec c'est une précision, je sais pas, tout. Il y a un monde qui naît comme ça, et là, ça continue de naître. Mineur détourné de l'attraction des astres.
Sébastien Merlet, n'est pas trop déçu qu'on n'ait pas passé le titre en entier. Il dure 7 minutes.
Je m'assure.
Surtout qu'il y a eu un précédent sur France Inter.
Ah oui, il y a eu un précédent puisque José Arthur, à l'époque, en 71, avait diffusé le disque en intégralité. L'intégralité de Mélodie Nelson, pas l'intégralité de Cargo.
Oui, oui. Première phase, deuxième phase.
28 minutes à l'antenne.
On est beaucoup plus timide aujourd'hui, ouais. En 2021. Vous voyez le genre.
Ah, c'est déjà pas mal, c'est bon d'entendre ce titre sur l'antenne.
Vous aviez supervisé la réédition de l'album justement en 2011. Vous étiez aussi le réalisateur du documentaire Histoire de Mélodie Nelson, toujours la même année. Qu'est-ce que vous aviez découvert? Qu'est-ce qui vous avait le plus marqué quand vous avez mené l'enquête pour cette réédition?
Ah bah l'effet marquant, bon, le grand moment, pour les interviews, ça a été surtout l'ingénieur du son en fait, Jean-Claude Charvier. Derrière les musiciens, derrière Gainsbourg, derrière Vanier, derrière cet ensemble pléthorique, hein, ils sont près de 50, hein, les cordes.
Alors que personne n'est crédité ni sur le vinyle, ouais, ni sur le CD. Ouais, mais vous avez retrouvé la trace de tous les musiciens.
Ouais. Oui, bah, ça a été une enquête de fou, surtout sur Melody Nelson, parce que c'est pas tant le monde qu'il y a sur le disque que les mystères qui plombaient l'enquête, quoi. Non, notamment le bassiste, le guitariste et le batteur. C'était très intéressant de savoir, parce que la rythmique anglaise, elle est
sublime,
dingue.
Incroyable. Mais surtout qu'il y avait cette histoire autour de la basse. Tout le monde voulait savoir quel genre de basse c'était. On croyait que c'était une Fender, et puis finalement, c'était pas une Fender, c'était une Burns.
Une Burns Bison, modèle Bison.
Incroyable.
Avec un ampli très spécial, des cordes aussi très spéciales, et surtout un bassiste incroyable derrière, qui est Dave Richmond, un musicien de séance anglais, qui était un des membres fondateurs de Manfred Mann, du groupe Manfred Mann.
Alors, qu'est-ce que vous avez découvert avec l'ingénieur du son ?
L'ingénieur du son, ce qui était fabuleux, parce qu'on l'a interviewé face à la caméra, quoi, réellement, pour le documentaire. On ne s'était pas rencontré avant, on s'était parlé au téléphone avec Jean-Claude Charvier, parce qu'il vit dans le sud de la France. Et quand il est arrivé, en fait, nous, au niveau de la mise en scène, on s'est dit, ça serait génial de l'avoir en studio, devant les pistes, quoi. Ça, on récupère les pistes, on lui prépare le boulot, et pour commencer, on le laisse refaire le mix de l'album sous nos yeux, quoi. Et en fait, c'était fascinant parce qu'on a vu mes 40 ans d'histoire passer sur le visage du gars. C'était extraordinaire. C'est-à-dire que le gars avait la même émotion à la fin de, quand il a fini le mix, justement à la fin de Cargo Cult, que s'il venait de finir le mix réellement, quoi. C'était extraordinaire. Il avait un regard, il a rien dit, il a juste regardé vers nous et qu'un geste comme ça d'approbation, genre waouh, c'est quand même énorme, quoi. On a fait un truc énorme. C'est vrai que c'est un disque, c'est probablement le disque le plus important de tous les temps en langue française, quoi. Je pense.
Il y a des choses que vous vouliez savoir, Arthur, ouais.
Non, c'est vrai que tout le monde s'est posé la question de cette basse qui court à travers tout le disque. Parce que Cargo Cult, c'est la même orchestration que le premier morceau, la balade.
C'est pas la même structure, mais c'est effectivement la même compo, quoi, en fait. Ouais. C'est des grilles, hein, à la base. Les musiciens jouent sur des grilles. Et en fait, ils trouvaient ça, Vanier et Gainsbourg ont trouvé ça tellement meilleur que plein de petites choses qu'ils avaient enregistrées pendant les séances, qu'ils ont décidé de garder ces deux prises. Et Gainsbourg a dit, mais quand même, on peut pas faire deux fois le même morceau. Et c'est là que Vanier a dit, on va laisser les cordes sur un morceau et mettre des cœurs sur
la fin. Ouais.
Voilà, les cœurs et la timbale.
Vous avez regardé comment a été construit justement tout cet album, Arthur Teboul ?
À force. Quand on aime quelque chose comme ça, c'est obsédant. J'écoutais tout le temps ce disque. À 17 ans, j'écoutais tout le temps, au point de remarquer ces petites choses. Moi qui ne suis pas du tout musicien et qui, en plus, à ce même âge, rencontrais mes amis musiciens avec qui aujourd'hui, on fonde le groupe. Ça m'a poussé à m'intéresser plus à la production, parce que quand on a envie de décortiquer un peu de la magie, on s'intéresse à ça, et notamment à cette basse, quoi. Il y a une basse incroyable, c'est pas possible, quoi.
Tout à l'heure, quand on était dans la loge, vous disiez que vous aviez fait donc un reportage avec Jane Birkin, avec Serge Gainsbourg, avec Vanier, et avec le frère de Jane Birkin. Quel était son rôle ?
Andrew, en fait, il était juste témoin. Mais quel témoin ? Il était là, il vivait, pour ainsi dire, avec le couple pendant quasiment toutes les années. Enfin, il était pas rue de Verneuil, hein, il habitait pas rue de Verneuil, mais à l'époque, Gainsbourg et Jane, le couple Birkin-Gainsbourg, tournaient dans beaucoup de films. Et lui avait pris l'habitude de les rejoindre sur les tournages. Et Melody Nelson a pas mal été écrit au niveau le texte, les paroles ont pas mal été écrites en Yougoslavie, en fait. Quelques mois avant les prises web, parce que c'est un album, on a l'impression comme ça que c'est un disque, on a l'impression que c'est un peu une musique à programme, Melody Nelson. Il y a un côté très opératique, d'ailleurs. Hein,
tout à fait, ouais.
La structure, on parlait des deux morceaux, l'effet miroir, etc.
Donc, vraiment, il y a des motifs qui reviennent, en
tout
effet.
Tout à fait.
Ouais.
Mais au-delà de ça, ce qui est intéressant de voir, c'est on considère ça aujourd'hui comme une musique à programme, mais c'est exactement le contraire. C'est en fait, les playbacks ont été finis 8 mois avant que Gainsbourg n'enregistre ses voix. Et il a un peu, peut-être pas séché, peut-être pas exagéré, mais il a eu du mal à sortir les textes. Je pense, d'après certains témoignages, parce qu'il avait envie d'impressionner Jane. Il avait envie d'être à la hauteur de John Barry, en fait. Puisque Jane, son premier mari, c'était John Barry.
Immense compositeur.
Donc voilà, ça plaçait la barre très haut. et Gainsbourg, a voulu être à la hauteur de ce défi, quoi, en fait.
Tu veux dire qu'il y avait les instrus déjà finis ?
Ouais. 8 mois avant.
Pendant 8 mois, il s'imprégnait des orchestrations, des instrumentales pour écrire les textes.
Tout à fait.
Il y avait déjà des idées, des mélodies.
Oui. Non seulement, mais en fait, le premier truc, et c'est souvent le cas chez Gainsbourg, le premier truc qui est venu, c'est le titre. Voilà, histoire de Melody Nelson. Le titre apparaît dans une dédicace qu'il a faite à Jane Birkin.
D'ailleurs, il avait dit à Vanier, j'ai pas de musique, j'ai pas de son, mais j'ai que le titre.
Mais c'est l'histoire de Melody Nelson, ouais. Voilà, c'est ça.
Et pareil, et ça, c'était en 68. Avec les mouches,
L'enfant assassin des mouches.
Pour Vanier. Un titre et une sorte de...
Alors ça, c'est encore un autre délire, parce que l'enfant assassin des mouches, Vanier est arrivé avec son disque fini, il l'a fait écouter à Gainsbourg, et c'est Gainsbourg qui lui a suggéré des titres, et qui a imaginé le ballet, etc. Bon. Mais pour revenir à Melody Nelson, en tout cas, dès 68, le titre était là, et ce qui est marrant, c'est que les premiers articles de presse que j'ai pu retrouver, qui datent d'août 69, où Gainsbourg parle de Melody Nelson, c'est juste après le succès de Je t'aime moi non plus. En fait, il se sert du succès de Je t'aime moi non plus pour embrayer sur l'album d'après, qu'il imagine d'abord comme une espèce de comédie musicale, une version X large de Je t'aime moi non plus. Voilà, parce qu'en gros, c'est le succès de l'été, enfin, c'est même un succès absolument monstrueux. Et donc, le point de départ de l'album, il est là, mais il a déjà son petit synopsis dans les articles de presse. Il dit, les journalistes disent, oui, ça sera l'histoire d'un quadragénaire qui renverse une jeune fille à bicyclette.
Il avait ça déjà.
Il avait déjà son idée. Voilà, après toutes les aventures, mais Vanier m'a raconté aussi que sur Melody Nelson, il y a eu toute une période où Gainsbourg voulait faire des toutes petites miniatures, des aventures un peu à la façon Martine. Melody fait ceci, Melody fait cela.
Etc. Oui, il y avait Melody Ozo, c'est ça. Il y avait une composition qui s'appelait Melody Ozo.
Mais ouais. On l'a retrouvé dans les partoches récemment, en fouillant dans les archives de Gainsbourg. On a retrouvé des partoches à la main de Vanier. Justement avec les titres écrits par Gainsbourg. Mélodie et les bas noirs, par exemple. Ça, c'est pas dans le Gainsbourg, c'est tout à fait frais. On a trouvé ça il y a quelques semaines.
Vous êtes toujours en train de travailler, hein ?
Sur Gainsbourg, ouais. C'est infini, c'est-à-dire que l'enquête ne s'arrête jamais. Hein.
Arthur Teboul, Sébastien Merlet, vous restez avec nous. Marion a rendez-vous dans quelques instants avec Yael. Mais tout de suite, je vous propose un titre qui vous concerne, Arthur de Fechterton. Vous voyez à quoi je pense ? Titre de 1967, extrait du 45 tours Monsieur Gainsbourg, ou Mr. Gainsbourg, sur lequel on trouvait Comic Strip, Hold Up, Torrey Canyon, avec David Whittaker en grand arrangeur. Vous ne voyez toujours pas ?
Si, je vois.
Chatterton, sur France Inter.
Les définitions du cynisme d'Oscar Wilde, connaître le prix de tout et la valeur de rien.
Ça ne vous rend pas malheureux, ça ?
Si. Je cherche pas le bonheur.
On va arrêter parce qu'on est au bout de la cassette là.
Ça va le son ?
Chatterton, 1967 pour vous, ou Arthur Teboul de Feu Chatterton, arrangeur David Whittaker. C'est la seule fois, hein, je crois. C'est ça,
oui,
Sébastien Merlet.
C'est le seul 45 tours qui a été fait avec David Whittaker. Et d'ailleurs, anecdote à propos de ce disque, ce petit 45 tours a d'abord été complètement finalisé à Londres. Et arrivé à Paris, les services de Philips ont considéré que le mixage n'était pas apte à sortir tel que. Ils ont refait le mixage à Paris en refaisant des prises voix. Alors, ils n'ont pas pu refaire la voix de Comic Strip parce qu'il y avait la chanteuse. Donc, c'est la seule voix qu'ils ont gardée des séances anglaises. Et ce que vous avez passé, là, c'est la version, c'est le mix original qui a été mixé par Giorgio Gomelski.
Bravo.
Le premier mix, voilà, le mix a été refait après à Paris.
Sébastien Merlet, on va écouter tout de suite un percussionniste, musicien de séance qui est dans votre livre, Le Gainsbourg, en studio avec Serge Gainsbourg. C'est Marc Chantereaux qui a travaillé avec tout le monde, avec Aznavour, avec Beko, en studio. Il a travaillé avec Brel, Léo Ferré sur scène et bien sûr avec Serge Gainsbourg. Une collaboration qui commence vraiment, même si ça a commencé avant, mais là ça commence vraiment sur l'album Vue de l'extérieur en 73, enregistré à Londres ou presque, parce que c'est là qu'intervient Marc Chantereaux.
Je suis né en 47, donc c'est en 72, je devais avoir 25 ans, c'était 5-12, ça doit être ça. Bon, je travaillais avec Serge à l'époque, puisque j'ai commencé, j'avais 17 ans à faire des disques. Et bon, je travaillais en tant que musicien, mais dans l'orchestre, quoi, avec Alain Goraguer, qui s'occupait beaucoup de Serge. Je le connaissais comme ça, pas plus que ça, quoi. Enfin, plus, voilà. Et puis quand il a enregistré « Je suis venu te dire que je m'en vais à Londres », il est revenu à Paris, il avait un manque. Et donc, il m'avait téléphoné, c'est Alain Ortu, qui était le directeur artistique de Serge, qui m'avait téléphoné, et donc, on était au studio des Dames, rue des Dames, dans le 17e, et donc, j'ai écouté, je suis venu te dire que je m'en vais, et j'ai proposé, j'ai fait une petite cabassade, et puis le triangle, ding, 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 et puis ça lui a plu, visiblement, et à partir de là, il m'a souvent appelé pour travailler avec lui, quoi, voilà, et c'était une belle rencontre, hein.
Je suis venu te dire que je m'en vais. Et tes larmes n'y pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais.
Il m'a appelé souvent quand il faisait des musiques de films, des choses comme ça. Serge, il arrivait, il savait ce qu'il voulait, mais bon, il nous laissait faire, quoi. Il nous avait confiance, c'est pour ça qu'il nous appelait. C'était le plaisir de faire de la musique ensemble, mais non pas. Parce que c'est vrai qu'à partir du moment où on a travaillé en étroite collaboration, comme c'était le cas, ça avait changé, parce qu'au début, dans les années 60, tout était écrit sur les partitions. Alors que là, il demandait une création, une petite création, soit, mais il nous demandait de participer, donc c'était surtout le travail qu'on faisait, enfin pas un travail, parce que je dis toujours c'est une passion rémunérée, c'était un plaisir de jouer, puisque voilà, on proposait, et ça lui convenait ou ça lui convenait pas, mais en général, ça lui convenait assez souvent, autrement il nous aurait pas rappelé.
Sur quel titre, plus précisément, vous êtes intervenu justement avec des propositions ? Par rapport aux musiques de films, par exemple, vous étiez sur Goodbye Emmanuel, sur Madame Claude ou sur ces films à lui, c'est-à-dire Équateur ou des choses comme ça?
Oui, Équateur, oui, je me souviens bien, oui, oui, puisque j'avais joué sur pas mal de percussions. Et puisqu'il y avait des musiques un peu à base africaine, et moi j'avais aussi apporté des choses comme ça, quoi, de musique africaine. Ça lui plaisait, quoi.
Vous trouviez que c'était un bon musicien ?
Ah ben Serge, c'était un musicien de jazz au début, il jouait du piano. Bon, c'était pas un grand jazzman, mais il connaissait bien, quoi. Il savait ce que c'était que les harmonies, quoi. Non, Serge, il savait exactement où il était, Serge. D'ailleurs, une anecdote, quand ça a été l'ami Cahouette, puisque l'ami Cahouette, on avait fait ça ensemble, c'est Jean Schultes qui chante derrière. Vous savez, quand un chanteur il faisait une chanson, il donnait la maquette, c'est-à-dire sur un petit mini-cassette. Et là, l'orchestrateur, il faisait l'arrangement là-dessus. Et c'était Jean-Pierre Sabard. Donc, Serge lui envoie la cassette, et Sabard nous a fait écouter la cassette de Serge. Et là, c'est à mourir de rire, je vais vous la faire. Alors, c'était, bon, alors, une cahouette. Alors, écoute, hein, bon, c'est comme ça. Et là, il avait trois accords de piano, il faisait poum, 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 une cahouette, poum, une cahouette, poum. Bon, allez, démerde-toi, voilà. Vraiment, moi, j'ai entendu, on était mort de rire. Ouais, puis l'autre, il a fait caoutchouc, machin et tout. Serge, attention, il avait un talent.
La micaouette me fait la tête.
Cacaouette.
La petite Noé ne veut plus me parler. la petite ramelle m'est infidèle.
Caramel.
Monsieur Hannibal me mine le moral.
Caramel.
Mamselle, son long me traite de con.
L'ami Kaweth, un single enregistré à Londres en juin 75. Ce sera d'ailleurs un gros succès, le tube de l'été 75 pour Gainsbourg. Sa meilleure vente de single depuis L'eau à la bouche en 1960. Et plus tard, il dira de ce titre que c'était une connerie monumentale. Sébastien Merlin, une réaction par rapport à ce que disait Marchantreau, justement.
D'abord, le disque est enregistré à Paris. Hein,
ah pas bon, à Londres, pas à Londres.
Bah
ah
non, parce que Marchantreau joue dessus.
Ah bah oui.
Jean Schultes également. C'est toute l'équipe Saba, en fait. Là, en fait. Oui, bah non, qu'est-ce que... C'est merveilleux comme témoignage. Ça. Il nous l'avait sorti exactement tel que pour Gainsbourg. Quel bonheur, quoi. Ben, Marc, c'est en plus un imitateur invraisemblable.
Il imite tout le monde, même Vanier.
Quand il vous imite Vanier, c'est à mourir de rire avec Christophe, Christophe, mon co-auteur. Quand on l'a interviewé, mais on se faisait pipi dessus. Vraiment, c'était mort de rire. Et non, ce qui est intéressant, c'est ce qu'il raconte. On va pas s'apesantir sur la Mika Wedge.
Non, bien
effectivement,
sûr.
C'est une connerie. Mais sur Je suis te dire que je m'en vais, c'est très intéressant ce qu'il raconte, parce qu'effectivement Gainsbourg, quand il est rentré de Londres avec les... En fait, Vanier venait de déclarer forfait. À la base, Gainsbourg imaginait qu'il allait faire Vue de l'extérieur sur le modèle, peut-être pas de Melody Nelson, mais plus comme Didouda, l'album de Jane Birkin qui était sorti entre-temps. Ça a enregistré des rythmiques à Londres et ensuite revenir à Paris et faire des cordes. Il avait imaginé mettre des cordes sur Je suis te dire que je m'en vais. Comme Vanier n'était plus là, il s'est tourné vers un vieux copain, Michel Colombier, qui a écouté la bande. Ça, c'est la fille de Colombier qui nous a raconté ça, parce qu'elle était là au moment enfant, mais elle était là au moment où ça s'est fait, adolescente. Et Colombier lui a dit, mais en fait, laisse comme ça, c'est parfait. Et je trouvais ça, voilà, ça c'est vraiment une remarque d'orchestrateur absolument merveilleuse, quoi. C'est-à-dire que le type, voilà, il va perdre l'affaire, en gros, il va pas bosser dessus, mais il optimise la chanson, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, la chanson, elle tient comme ça. Après, Gainsbourg, il lui manquait encore quelque chose, et c'est là que Chantreau intervient, pour ajouter la cabassa et le triangle. Moi qui ai écouté les pistes sans la cabassa et le triangle, je peux vous dire que le morceau ne tient beaucoup moins bien debout sans ces deux ingrédients-là. C'est net.
Qu'est-ce que ça vous inspire, Arthur Touboul, ces façons de travailler justement de Serge Gainsbourg ?
Bah, elle ressemble aux façons de travailler de tous les musiciens, ça qui est beau en fait, c'est qu'il y a une cuisine interne qui est la coulisse, mais qui est en même temps le cœur du métier. Je pense que si on veut vraiment discuter avec les musiciens, il faut leur demander de parler de leur travail, c'est-à-dire de ces moments-là. Des moments où on est en studio, où en fait une idée part de quelque chose de ridicule, d'idiot. Souvent des choses qui ont l'air à la fin très subtiles, solennelles et sérieuses sont venues d'une blague. Et on ne parle pas de la Mika Wedge, parce que la Mika Wedge, même le résultat est une blague.
Oui.
Mais parfois des choses s'expriment comme ça accidentellement et c'est la somme de tous ces petits accidents, de ces moments où en fait, bah tiens, un doute, Vanier n'est pas disponible, on pense que ça va être une catastrophe. Et en fait, de ça, un rebond, on va chercher quelqu'un d'autre. Il y a une nudité dans le morceau, il manque une petite rythmique. Et on a, je suis venu te dire que je m'en vais. Ça, c'est que ça, en fait, la vie d'une chanson. C'est d'abord une idée, une petite étincelle, quelle que soit la chanson, hein, quel que soit l'auteur. Et de cette petite étincelle, être attentif à tous ces accidents. Et parfois, on se fourvoie, parfois pas, mais c'est toujours arbitré. Qu'est-ce que je vais faire de ce matériau existant ? Il faut faire avec ce qu'on a, quoi.
Quel âge avait Vanier quand il a travaillé avec Gainsbourg ?
25 ans.
25 ans, et ouais, Gainsbourg était beaucoup plus âgé. Il avait
Mais c'est amusant d'ailleurs de voir sur Melody Nelson, pour revenir encore à Melody Nelson, on y revient toujours à Melody Nelson, mais il s'entoure que de gens très jeunes.
Ouais.
Il y a Jane, il y a Andrew, qui est donc le frère de Jane qui est dans le secteur, il y a Vanier, Tony Frank, le photographe, c'est pareil, c'est des gens qui ont tous 25 ans, et Gainsbourg a 43 ans. Au moment de la sortie de l'album, il a 43 ans.
Et c'est volontaire de vouloir s'entourer de personnes jeunes ? Qu'est-ce qu'il y trouve ?
Je crois qu'à ce moment-là, il y a un phénomène qui est sûr, c'est que Gainsbourg se sent vieux à ce moment-là. Ça, Vanier me l'a dit, Tony Frank me l'a dit aussi. C'est vraiment, c'est une période de sa vie où la quarantaine, ça, il l'a mal vécu. Et je crois que le fait d'être avec Jane, déjà, qui était beaucoup plus jeune que lui, il avait le sentiment d'avoir presque commis un détournement de mineur, ce qui n'était pas le cas, elle était majeure. Hein. Mais ça a probablement nourri le concept de l'album.
Et peut-être même aussi dans sa façon de chanter. Il y avait quelque chose de
vieux qui le rattachait à avant, et avec Melody Nelson, quelque chose a changé justement.
Oui, alors le phénomène était déjà enclenché. Hein, le premier moment où Gainsbourg a commencé à parler comme ça sur de la musique, c'est Initials BB, c'est 3 ans plus tôt. C'est une date hein, dans sa carrière. C'est la première chanson Initials BB sur laquelle il parle tout le long. Il l'avait déjà fait par-ci par-là sur des morceaux, sur des ou même parfois pour interpréter des textes d'autres personnes. Je pense à Marie Mathématique qui était une espèce de petit, pas vraiment de dessin animé, mais de BD télévisuel dont il avait fait la BO, et il déclamait les vers d'André Ruellan, le poète qui avait écrit le texte. Voilà, il en avait posé...
Bases, un petit voilà. peu comme ça.
Mais c'est vraiment le premier morceau où il parle d'un bout à l'autre, c'est Initials BB.
Côté club,
it's a fact.
France Inter.
Journée spéciale, Serge Gainsbourg.
No comment.
C'est Bambou qui crie derrière, ça me fait toujours un effet dingue. Non mais c'est vrai, ça me fait un effet dingue.
On en parlait hier.
Yael, tu vas peut-être crier de la même façon, Marion.
Est-ce que vous criez pareil, Yael?
Ça peut m'arriver, j'imagine, oui.
Alors on va évoquer votre relation avec les chansons, le personnage de Serge Gainsbourg, parce que vous êtes avec nous ce soir avec ce projet.
Gainsbourg, l'héritage électronique. Avec Bob Sinclair, Chloé, Jacques, Flaubert, Vitalik et Yael. Épisode 1.
Un podcast donc en 4 épisodes, ça sera diffusé sur Spotify dès le 10 mars, Gainsbourg, l'héritage électronique. Alors Yael, juste avant d'entrer dans le détail de ce podcast, quelle a été votre porte d'entrée pour les chansons de Serge Gainsbourg?
Moi je crois que finalement c'était à l'adolescence, parce que en y réfléchissant, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas vraiment de disque de Gainsbourg chez moi. Et pour en avoir discuté avec ma mère il y a quelques jours, elle m'a dit non, on n'avait pas de disque de Gainsbourg, mais par contre voilà, on l'écoutait quand on le voyait à la télé, quand on l'entendait à la radio, on n'éteignait pas, on aimait bien, mais c'était pas non plus quelqu'un qu'on écoutait beaucoup. Et finalement, moi, j'ai découvert Gainsbourg avec mes copains et mes copines au lycée, en fait, tout simplement, avec je sais plus vraiment qui, mais je me rappelle dans des soirées écouter des disques entiers et vraiment là découvrir son travail, et plus vraiment avoir que que l'image que je pouvais avoir de lui à l'époque quand je le voyais dans des émissions de variété, etc. Je découvrais vraiment un autre panel de ce qu'il pouvait proposer.
Et donc c'est quel album? C'est Love on the Beat?
Alors moi j'ai vraiment découvert Gainsbourg plutôt avec Le Poinçonneur des Lilas, enfin plutôt des choses assez anciennes.
Ah ouais, d'accord.
Et puis finalement je suis venue assez tard à ce qu'il a pu faire dans les années 80 et plus tard. Donc je pourrais pas vraiment dire dans quel ordre les choses sont venues, mais je me rappelle que c'est vraiment plus. Je me rappelle que j'aimais bien voir des vidéos d'anciennes émissions, quoi, où on le voyait un peu
scopitone.
Voilà, exactement. Je trouvais que c'était, il avait un truc très dandy comme ça, très beau, enfin qui me plaisait beaucoup, ouais.
Alors on dit de Serge Gainsbourg qu'il a été le premier artiste finalement dans la musique pop française à sembler la musique des autres, le classique beaucoup. Vous-même, oui. Yael, quel son de Serge Gainsbourg vous avez samplé, vous auriez pu sampler?
Je le disais justement dans ce podcast, mais moi, Mon Légionnaire, c'est vraiment un morceau que j'adore. D'ailleurs, c'est rigolo parce que je ne savais absolument pas que c'était une chanson qui avait été chantée par Piaf à l'origine. Enfin, c'est génial parce que je découvre encore des choses aujourd'hui. Et donc, en réécoutant il y a peu de temps ce morceau, je me suis dit, mais il y a plein de petites choses à prendre dans ce morceau-là. Et tout ce qu'il y a dans cette période des années 80, moi, tous ces sons hyper claquant, les basses qui avancent comme ça, qui sont rondes, toute cette période-là, moi, ces sonorités-là me parlent et me plaisent beaucoup.
C'est ce son-là qui fait la liaison aujourd'hui avec l'héritage de la musique électronique avec Serge Gainsbourg. C'est vraiment Love on the Beat, cette façon d'enregistrer avec Billy Rush, presque en home studio finalement, par moment, il y a eu des séances entières comme ça.
Ouais, j'ai l'impression que c'est ça, en tout cas, qui me touche et qui relie à cette pop électronique que j'aime et qui m'a certainement inspirée, finalement, sans m'en rendre compte, parce que c'est assez rigolo, mais je me suis jamais trop revendiquée justement de cet héritage de Gainsbourg. Et justement en m'y replongeant un petit peu, je me suis dit mais en fait il y avait ce morceau là et puis il y a par exemple le live au Casino de Paris que j'ai beaucoup regardé et que j'ai beaucoup dont je me suis inspirée pour justement cette espèce d'ambiance, le fait qu'ils soient tous habillés pareil, les lumières, le côté très les volutes, tout ça, ça m'a toujours ça m'a beaucoup plu. Enfin j'ai c'est presque plutôt par des choses comme ça, des détails.
Dans ce podcast, Yael, la Marseillaise, son cas est évoqué, la reprise de Gainsbourg. Vous, si vous deviez la reprendre avec Grand Marnier, elle aurait quelle couleur?
Je ne sais pas du tout. Peut-être qu'on en ferait quelque chose de très, de peut-être un peu brutal. Je ne sais pas. Peut-être un peu comme un hymne techno, je sais pas, quelque chose d'un peu trans, de l'ordre de la trans, ouais.
Arthur Teboul, vous, si avec Feu Chatterton vous devriez sampler quelque chose de Gainsbourg, ce serait quel titre?
Waouh,
question. On y revient.
Il y en a tant, mais c'est vrai que quand on réécoutait quand même les guitares de l'album
De Mélodie Histoire Nelson, de Mélodie Nelson,
ouais. Il y a un morceau qui me touche vachement dans le disque, c'est un morceau instrumental. Alors je fais pas du tout ça pour faire une pirouette, parce que Gainsbourg est un parolier, un auteur et un interprète incroyable, mais il s'appelle En Mélodie. Je trouve que c'est quand même une très très belle manière de dire qu'on fait l'amour, quoi. Juste un morceau instrumental de guitare qui montre ce voyage intérieur à la fois malicieux et naïf et très intense. Peut-être ces guitares-là, quoi.
Yael, Gainsbourg a fait énormément chanter les femmes. Est-ce que vous auriez aimé vous travailler avec lui, être une de ses muses? Quel genre de chanson vous aurez écrite?
Oh, je pense qu'il aurait peut-être écrit des chansons justement à double, triple, quadruple sens, avec des tiroirs dans tous les sens. Et puis, c'est vrai que peut-être que, comme moi je suis allée sur ce terrain-là, le fait de chanter, comment dire, des choses très... de manière parfois crue, ou en tout cas d'assumer ma sexualité, etc. Enfin, tout ça, peut-être qu'il aurait foncé dans cette brèche. Mais c'est vrai que c'est à une époque, après avoir entendu, écouté tout ce qu'il a pu faire pour des femmes très différentes, je suis assez impressionnée, et je me dis toujours que ça aurait été certainement une expérience assez incroyable, en fait.
Sébastien Merlet, vous avez l'impression, vous qui connaissez le sujet Gainsbourg sur le bout des doigts, est-ce que vous dites la même chose que Yael par rapport au fait que Serge Gainsbourg aimait beaucoup les femmes? Est-ce que il y a toujours eu quand même un soupçon de misogynie à son sujet?
Je pense que il s'est construit un personnage. Déjà, voilà, il avait le désir comme ça de d'attaquer le marché dans sa 30e année. Hein. C'était vraiment il y a quelque chose de parfaitement établi, dogmatique, presque écrit, quoi. Et je pense que voilà, le personnage qui s'est construit, la misogynie, c'était une façon de se faire remarquer à ses débuts. Après, je crois qu'il y a eu un masque qui lui a collé à la peau et qu'il n'arrivait plus à enlever par la suite. Voilà, après, misogyne, Gainsbourg, il y a une question d'incarnation chez Gainsbourg. C'est quand même un mec qui a vachement souffert de son physique, ce qui est, enfin, moi, je sais pas, mais il est d'une beauté foudroyante à certaines périodes de sa vie, quand il est avec Jane et tout ça.
Ouais, Jane est magnifique.
Il est magnifique,
avec,
quoi,
le pull marin.
Mais voilà, lui se vivait laid. Donc je pense que ça a été une des composantes de sa misogynie, sans aucun doute. Ouais.
Merci beaucoup Yael. Hein. Je vous rappelle qu'on vous retrouve aux côtés de Bob Sinclair, Chloé Vitalik, Jacques Flabert dans le podcast Gainsbourg, l'héritage électronique, initié par Warner Chappell, réalisé par Antoine Molcou et dispo à partir du 10 mars sur Spotify. Tout de suite, Mon Légionnaire.
si clair comme au ciel, passe des oranges et de pleins tatouages que j'ai jamais très bien compris. Son cou porté, pas vu, pas pris. Sur son cœur, on lisait personne. Sur son bras droit,
j'étais un Mac, c'est-à-dire j'envoyais les filles au tapin, je les faisais chanter, puis moi je touchais le blé. Maintenant je suis un gigolo. Ah, c'est pas la même chose.
C'est une belle carrière, votre carrière.
Ah ouais. Ah oui, puis c'est un parcours du combattant sans faute. Hein. C'est un sans faute. En plus, c'est ascendant. Parce que maintenant j'ai tous les petits gamins, hein. Vous avez vu sur mon nom, les graffitis.
Ah oui.
Petits gamins que j'ai tenus. Puis au concert, c'était bourré, pas moi. Pas
mais,
moi.
Non, pas vous.
La salle.
Et c'est vrai que Serge Gainsbourg, devant chez vous, vous avez plein de graffitis devant votre porte. Et vous êtes le seul chanteur à voir ça devant votre porte.
Oui.
Johnny Hallyday, il n'a pas ça devant sa porte, lui.
Je connais pas.
Connais pas. Nos commandes pour Serge Gainsbourg. Arthur Teboul, un mot peut-être justement sur ce son qu'on écoute là, c'est le son de le dernier album, You're Under Arrest. Est-ce que c'est un son qui vous convainc autant que Yael par exemple sur ce morceau Le Mangionnaire?
C'est pas la période qui m'a le plus touché pour les arrangements et pour le son comme ça, je dirais cheesy quoi, qui est un peu suintant, très imposant comme ça. Mais en revanche, ce que je trouve très beau même avec cette chanson, c'est que toujours cette voix dont on tombe amoureux un jour, et ben peut être orchestré n'importe comment, Il chante Mon Légionnaire, alors que c'est d'abord une chanson quand même chantée par Édith Piaf, donc une femme, on sent comme ça qu'il pourrait attendre le militaire qu'elle a connu un jour. Quand Gainsbourg la chante, il attend quand même son légionnaire aussi. Ah, c'est ouais. Cette même intensité, cette même détresse, quoi. Je sais pas, on est pris.
Vous avez interviewé, vous, Sébastien Merlet, Dominique Blanc-Francard. C'était oui. Le seul album qu'il a réalisé avec Gainsbourg.
C'est le seul Gainsbourg.
De Gainsbourg, parce qu'il a fait à Gianni, il avait fait l'album aussi, plusieurs albums de Jane Birkin, mais Serge Gainsbourg, c'est le seul. C'est le dernier, d'ailleurs.
Oui, c'est le dernier, oui. Effectivement, parce que Love on the Beat avait été mixé là-bas, à New York, Power Station.
Ouais.
Mais oui, là, en fait, Gainsbourg, pour cet album-là, a fait ses prises voix à Paris. Il avait enregistré les bases playback dans le New Jersey comme pour Love on the Beat, mais après il est rentré avec les bandes playback, il a fait les prises voix à Paris et le mixage a été fait par Dominique Blanc-Francard à Paris. Ouais.
Et pareil, le son vous convainc moins aujourd'hui parce que vous connaissez d'autres versions de Mon Légionnaire.
Je parle de Gainsbourg. Désolé pour les auditeurs parce que c'est super frustrant de parler d'un truc que
les gens iront voir justement.
Non, mais c'est horrible.
C'est lesquels alors?
C'est Love on the Beat, les séances de Love on the Beat. Il y a Mon Légionnaire qui est sur les bandes.
Ah d'accord.
Et oui, il y a une première version de Mon Légionnaire.
C'était
qui ressemble
prévu
pas
pour
mal
l'album
à...
précédent. Alors.
Voilà, c'est ça. Qui s'inscrit d'ailleurs dans la thématique beaucoup mieux dans Love on the Beat quelque part. C'est intéressant d'ailleurs de voir comment ils s'en tirent par une pirouette pour intégrer Mon Légionnaire. Qui voulait absolument chanter quoi dans Your Under Arrest, parce que le thème de Your Under Arrest n'a rien à voir avec ça, mais il s'en tire par une pirouette dans l'avant-dernier morceau pour amener le thème de Mon Légionnaire. Et par contre, dans Love on the Beat, le morceau se serait inséré à merveille, quoi. La thématique du disque, c'est ça, quoi. Oui, la première version, elle ressemble un peu à... Je vais essayer de la décrire pour les auditeurs, ouais. Parce que comme ça, ça ressemble un petit peu... Il y a un petit peu un blues, un peu à Billy Rush, hein. Ça ressemble un peu à comment dire, par rapport aux autres albums, aux autres morceaux de l'album Love on the Beat, je dirais que celui qui se rapproche le plus, c'est Sorry Angel. Voilà, c'est cette rythmique-là.
D'accord, ça fait envie quand même.
Ouais, mais Gainsbourg n'était pas content du tout, quoi. Il y a deux prises voix, hein. Il y a une prise voix chantée et une prise voix parlée. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir comment il le fait à l'arrivée. C'est qu'elle est moitié-moitié. Mmh. Et c'est ça le miracle, quoi. C'est là que ça tient. Blanc-Francard nous a raconté que quand il faisait les prises voix, mais il a ramé, mais pour la version finale, il a ramé, mais terrible, mais il voulait absolument la faire, quoi. Et il a fait quelque chose comme 12 heures de studio d'affilée pour sortir cette prise voix qui voulait pas venir. Et ils ont tout essayé, chanté, parlé, jusqu'à arriver à ce résultat-là, quoi. Et Blanc-Francard nous racontait que c'était amusant, parce que quand il entendait Gainsbourg chanter sur Mon Légionnaire pendant les prises, il avait l'impression d'entendre le Gainsbourg des débuts. Il y a un côté complètement vieillot, anachronique.
C'est ça, quoi. Ouais. Surtout sur un titre qui avait été créé par Édith Piaf. Donc voilà. On voit bien justement le danger qu'il y avait
exactement.
À reprendre ce titre et ne pas tomber dans
c'est
le côté vintage.
Hein. Exactement.
Puis le texte impose aussi, avec sa thématique, cette manière d'être écrit, impose ce caractère aussi un peu ancien. C'est pour ça que c'est difficile d'en sortir.
Complètement, ouais. Ouais, en même temps, le texte, la chanson, elle est géniale.
Ouais,
quoi. Absolument géniale. C'est pas du Gainsbourg en l'occurrence, ouais. Mais
et cette chanson, vous l'avez vue dans, enfin vous l'avez travaillée sur d'autres concerts. Elle est dans des concerts aussi.
Alors elle est sur le fameux Live au Zénith qu'on est en train de
travailler.
On a fini mix,
ouais.
On a eu
triple album. Ouais.
Alors oui, il va ressortir en vinyle en trois vinyles. Au mois de juin.
Il y en avait deux avant.
Il y en avait deux, ouais.
Vous en avez rajouté, alors.
On a mis tout ce qu'il y avait sur les bandes, quoi, en fait.
Qu'est-ce que vous avez trouvé, alors?
C'est extraordinaire, hein, franchement. Alors, moi, le Zénith, j'étais un peu réticent au début pour bosser dessus, parce que c'est pas vraiment ce qui me faisait le plus frémir de Gainsbourg. Mais franchement, en mettant le nez dans les bandes, je me suis rendu compte qu'il y avait un potentiel énorme. Déjà, le groupe joue, mais c'est monstrueux.
C'est qui le groupe?
C'est le même groupe qu'au Casino de Paris. D'accord. C'est Billy Rush et ses musiciens. Tony Sundersmith à la basse. John Kay à la batterie, pardon. John Kay à la basse. Guy Georgette au clavier. Plus les choristes. Alors, c'est pas les mêmes choristes qu'au Casino. Là, c'est deux choristes noirs américains. Sur Love on the Beat, c'était des choristes, les frères Sims, qui sont pas les frères Sims. Attention, il y a deux
frères Sims.
Il y a deux fratries Sims. C'est quand même compliqué, hein, l'histoire de la musique. Bref, tout ça pour dire que le nouveau Zénith va fracasser. Ouais. C'est vraiment une tuerie. Il y a donc six morceaux en plus, surtout des nouveaux morceaux de l'époque, de Your Under Arrest, en fait.
Ah, d'accord, du dernier album.
Voilà, il y a Bye Bye Samantha, il y a Suck Baby Suck. Mais il y a aussi une nouvelle version, enfin entre guillemets, une version de Sorry Angel, la javanaise aussi bien sûr, et il y a deux versions de Mon Légionnaire. Une qui est jouée au cœur du concert et une en rappel. Et celle du cœur du concert qui est nouvelle, qu'on n'a jamais entendue, elle déboîte, mais ça joue, mais c'est quelque chose d'atomique.
On en est où de l'album inédit de Serge Gainsbourg, dont on nous parle de temps en temps? Il y a même un titre, quelquefois, qui affleure.
Ouais, alors...
Le titre, ça serait quoi?
C'est Christian's Name, Christian. C'est le dernier projet de Gainsbourg, c'est ça dont vous me parlez.
Vous étiez au courant, Arthur?
Non, c'est Sébastien qui m'apprend.
On va tout savoir, alors.
Il faut lire le Gainsbourg. Ouais. À la toute fin de sa vie, Gainsbourg a commencé à travailler sur l'album suivant, en fait, et il a malheureusement pas eu le temps de le mener à terme. Il devait l'enregistrer à la Nouvelle-Orléans. Alors, on a des infos parcellaires. Moi, j'ai rien entendu. Ça, je sais pas s'il y a des bandes de travail. On le saura peut-être un jour, peut-être bientôt. On verra. Je suis pas sûr qu'il y ait grand chose d'exploitable, parce que Gainsbourg s'enregistrait dans des conditions chez lui en mode maquette, avec un micro-cassette, même pas une cassette, micro-cassette et un petit micro-cravate. Donc vraiment, c'est de la qualité, amateur, quoi. Mais bon, il y a des bribes de texte, ça on le sait. Il y avait des mélodies dont Bambou nous a parlé il y a quelques années quand on l'avait interrogé, pas pour le Gainsbourg, mais avant. Bref, tout ça nous indique que l'album était bien enclenché. Il devait partir enregistrer à la Nouvelle-Orléans. Le concept était assez génial. C'était un concept album à nouveau.
Encore, comme Under Arrest.
Comme Under Arrest, ouais. L'idée était de se servir de la. L'idée est incroyable. Il voulait partir du récit des révoltés du Bounty et le transposer sur un porte-avions. C'était énorme quand même.
Dingue.
Voilà. La Nouvelle-Orléans, ça aurait été évidemment très 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 excitant, quoi.
Sébastien Merlet, je vous laisse lancer votre choix final, la ballade de Johnny Jane, qui vient du live du Casino de Paris, 1985.
C'est la seule fois où Gainsbourg l'a interprété lui-même, en fait, parce que c'est une chanson qu'il avait composée pour Jane Birkin après son film du même titre, Je t'aime moi non plus.
Parce que dans le film, c'est un instrumental.
Et
Jane Birkin
en a créé une version vocale quelques mois plus tard, en 76. Et Gainsbourg donc l'a interprété au Casino de Paris 9 ans plus tard, cette version qui est absolument poignante, que je trouve extraordinaire. Voilà.
J'aime que les gamins soient debout. Tous les briquets allumés, je ne savais pas ce que c'est que d'avoir la gorge serrée. Là, j'ai compris. J'avais l'air aux yeux. C'est incroyable, c'est comme un ciel étoilé. C'est magnifique. Magnifique.
Johnny Jane, te souviens-tu du film de Gainsbourg, Je t'aime? Je t'aime moi non plus, je les t'aime. Et Johnny Jane, toi qui traînes tes baskets et tes yeux candides dans les no man's land et les lieux sordides. Johnny Jane, les décharges publiques sont des Atlantides que survolent les mouches codorides. Oh, Johnny Jane, tous les camions à veine viennent diverser bien des panneaux infantiles. Et Johnny Jane, tu balades tes cheveux courts, ton teint livide, à la recherche de ton amour suicide. Et Johnny Jane, du souvenir veux-tu trancher, carotide, coup de pied dans les conserves vidéo. Johnny Jane, le beau camion à veine te transporter de bonheur en bonheur sous les cieux limpides. Johnny Jane, ne fais pas l'enfant, sois pas si stupide, regarde les choses en face, sois lucide. Et Johnny Jane, efface tout ça, recommence, liquide de ta mémoire ces brefs instants torrides. Oh, Johnny Jane, un autre camion à veine viendra te prendre pour t'emmener vers d'autres Florides. Johnny Jane, toi qui traînes tes baskets et tes yeux candides dans les no man's land et les lieux sordides. Johnny Jane, écrase un courageux, ton œil humide, le temps ronge l'amour comme l'acide.
Et ce sera la balade qui signe la fin de Côté Club. Merci Arthur Teboul.
Merci.
Merci à vous. On se retrouve bientôt sur France Inter avec Feu Chatterton le 11 mars pour le concert triple affiche avec Raphaël et Arnaud Robotini, le 15 mars dans Côté Club, et l'album Palais d'Argile est prévu pour le 12 mars. Sébastien Merlet, merci beaucoup.
Merci à merci vous pour à l'invitation. Vous.
Je rappelle plaisir. Le Gainsbook pour tout savoir sur le beau Serge au travail avec ses arrangeurs, les ingénieurs du son, ses musiciens de séance. C'est passionnant et c'est aux éditions de Segers. On attend pour juin le triple album Le Zénith de Gainsbourg. Merci à l'ami Marc Chantreau pour sa participation. Et je signale aussi la parution de trois vinyles. Serge Gainsbourg à la Maison de la Radio en maxi 45 tours, deux BO de films érotiques, Madame Claude et Goodbye Emmanuel, ce sont des inédits. Marion ?
Le podcast Gainsbourg, l'héritage électronique avec Yael, Bob Sinclair, Chloé, Vitalik, Jacques Flabert, diffusé à partir du 10 mars sur Spotify.
Le petit gars à la réalisation avec un habillage pas dégueu ce soir, c'est bien sûr Stéphane Le Guenec. À la technique, Serge Viguier, préparation de folie, c'était pas facile sur ce coup-là. Merci à Marion Guilbault, Virginie Rouzic, Alexis Goyer avec la collaboration de Margot Ter. Demain, on a rendez-vous à 22h en direct ou absolument quand vous voulez en podcast avec Dom Lalena et Magali Lehuche pour son adolescence avec les Beatles. Marion ?
Mathias Malzieu coupe le son presque avec Dionysos pour Time Machine Experience, un concert en streaming et en acoustique.
Voilà, côté club, on ferme. Je vous souhaite le bonsoir, à demain.
Stop. Bon, ben ça va. Stop. Stop. Bravo.